Lettre 100 de Madame de Sévigné à Madame de Grignan. À Paris, vendredi 6 mai 1672. Ma fille, il faut que je vous conte. C'est une radoterie que je ne puis éviter. Je fus hier à un service de Monsieur le chancelier Séguier à l'oratoire. Ce sont les peintres, les sculpteurs, les musiciens et les orateurs qui en ont fait la dépense, en un mot, les quatre arts libéraux. C'était la plus belle décoration qu'on puisse imaginer. Lebrun avait fait le dessin. Le mausolée touchait à la voûte, ornée de 1000 lumières et de plusieurs figures convenables à celui qu'on voulait louer. Quatre squelettes, en bas, étaient chargés des marques de sa dignité, comme lui ayant ôté les honneurs avec la vie. L'un portait son mortier, l'autre sa couronne de duc, l'autre son ordre, l'autre les masses de chancelier. Les quatre arts étaient éplorés et désolés d'avoir perdu leur protecteur, la peinture, la musique, l'éloquence et la sculpture. Quatre vertus soutenaient la première représentation. La force, la justice, la tempérance et la religion. Quatre anges ou quatre génies recevaient au-dessus cette belle âme. Le mausolée était encore orné de plusieurs anges qui soutenaient une chapelle ardente, laquelle tenait à la voûte. Jamais il ne s'est rien vu de si magnifique ni de si bien imaginé. C'est le chef-d'œuvre de Lebrun. Toute l'église était parée de tableaux, de devises et d'emblèmes qui avaient rapport aux armes ou à la vie du chancelier. Plusieurs actions principales y étaient peintes. Madame de Verneuil voulait acheter toute cette décoration à un prix excessif. Ils ont tous, encore, résolu d'emparer une galerie et de laisser cette marque de leur reconnaissance et de leur magnificence à l'éternité. L'assemblée était belle et grande, mais sans confusion. J'étais auprès de M. de Tulle, de M. Colbert et de M. de Monmouth, beau comme du temps du palais royal, qui, par parenthèse, s'en va à l'armée trouver le roi. Il est venu un jeune père de l'oratoire pour faire l'oraison funèbre. J'ai dit à M. de Tulle de le faire descendre et de monter à sa place, et que rien ne pouvait soutenir la beauté du spectacle et la perfection de la musique que la force de son éloquence. Ma fille, ce jeune homme a commencé en tremblant, tout le monde tremblait aussi. Il a débuté par un accent provençal. Il est de Marseille, il s'appelle l'aîné. Mais, en sortant de son trouble, il est entré dans un chemin si lumineux, il a si bien établi son discours, il a donné aux défunts des louanges si mesurées, il a passé par tous les endroits délicats avec tant d'adresse, il a si bien mis dans tout son jour tout ce qui pouvait être admiré, il a fait des traits d'éloquence et des coups de maître si à propos et de si bonne grâce que tout le monde, je dis tout le monde sans exception, s'en est écrié et chacun était charmé d'une action si parfaite et si achevée. C'est un homme de 28 ans, intime ami de M. de Tulle, qui l'emmène avec lui dans son diocèse. Nous le voulons nommer le chevalier Mascaron, mais je crois qu'il surpassera son aîné. Pour la musique, c'est une chose qu'on ne peut expliquer. Baptiste Lully avait fait un dernier effort de toute la musique du roi. Ce beau miséréré y était encore augmenté. Il y eut un libéra où tous les yeux étaient pleins de larmes. Je ne crois point qu'il y ait une autre musique dans le ciel. Il y avait beaucoup de prélats. J'ai dit à Guitan, cherchons un peu notre ami Marseille, nous ne l'avons point vu. Je lui ai dit tout bas, si c'était l'oraison funèbre de quelqu'un qui fut vivant, il n'y manquerait pas. Cette folie a fait rire Guiteau, sans aucun respect pour la pompe funèbre. Ma chère enfant, quelle espèce de lettre est-ce ceci? Je pense que je suis folle. À quoi peut servir une si grande narration? Vraiment, j'ai bien satisfait le désir que j'avais de vous conter. Le roi est à Charleroi et y fera un assez long séjour. Il n'y a point encore de fourrage, les équipages portent la famine avec eux. On est assez embarrassé dès le premier pas de cette campagne. Guitant m'a montré votre lettre et à l'abbé. Envoyez-moi ma mère. Ma fille, que vous êtes aimable et que vous justifiez agréablement l'excessive tendresse qu'on voit que j'ai pour vous. Hélas, je ne songe qu'à partir, laissez-moi le soin. Je conduis des yeux toutes choses. Et si ma tante prenait le chemin de Languire, en vérité je partirais. Vous seul au monde me pouvez faire résoudre à la quitter dans un si pitoyable état. Nous verrons, je vise au jour la journée. et je n'ai pas encore le courage de rien décider. Un jour je pars, le lendemain je n'ose. Enfin, vous dites vrai, il y a des choses bien désobligeantes dans la vie. Vous me priez de ne point songer à vous en changeant de maison, et moi je vous prie de croire que je ne songe qu'à vous et que vous m'êtes si extrêmement cher que vous faites toute l'occupation de mon cœur. J'irai coucher demain dans ce joli appartement où vous serez placé sans me déplacer. Demandez au marquis d'Oppède, il l'a vu. Il dit qu'il s'en va vous trouver. Hélas, qu'il est heureux! Adieu, ma belle petite, vous êtes au bout du monde, vous voyagez. Je crains votre humeur hasardeuse. Je ne me fie ni à vous, ni à monsieur de Grignan. Il est vrai que c'est une chose étrange, comme vous dites, de se trouver à Aix après avoir fait 100 lieues et au Saint-Pilon après avoir grimpé si haut. Il y a quelquefois dans vos lettres des endroits qui sont très plaisants, mais il vous échappe des périodes comme dans Tacite. J'ai trouvé cette comparaison. Il n'y a rien de plus vrai. J'embrasse Grignan et le baise à la joue droite, au-dessous de sa touffe ébouriffée.